France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Quand l'Europe cherche encore la parade à un possible désengagement des États-Unis dans la guerre en Ukraine, une réunion à Londres hier a permis de relancer l'éternel débat autour d'une défense européenne. À quelles conditions? Nous serons en direct de Bruxelles et puis on s'intéressera également aux désaccords qui ne manquent pas déjà de s'exprimer en France, en premier lieu sur la dissuasion nucléaire. On se rendra également à Jérusalem où à l'issue de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, la poursuite de la trêve apparaît, on le verra, plus que jamais incertaine. À l'occasion du lancement du tout premier vol commercial de la fusée Ariane, aujourd'hui on se demandera jusqu'à quel point la course avec le concurrent américain SpaceX a transformé le modèle spatial européen. Enfin, on reviendra en France pour constater comment le gouvernement s'arrache déjà les cheveux en prévision de la préparation du budget 2026. Après que la sidération a saisi les capitales européennes face à l'attitude furieusement méprisante de Donald Trump à l'encontre de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, ce jour d'infamie pour la diplomatie va-t-il redonner de la puissance à l'Europe en lui permettant de reprendre l'initiative et de contribuer à construire une paix basée sur des éléments acceptables pour l'Ukraine et sa souveraineté? Hier, non seulement le sommet de Londres a permis de montrer une unité retrouvée, mais plus encore les Européens, Britanniques et Français en tête, ont jeter les bases d'une coalition pour garantir la paix aux portes du vieux continent. Une position commune qui devrait être réaffirmée d'ailleurs jeudi à Bruxelles, cette fois-ci où la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a elle prévu de présenter un plan exhaustif pour réarmer l'Europe. Ou dit autrement, peut-être que le déchaînement public du président américain aura eu au moins le mérite de réveiller l'Europe de son romantisme idéologique avec une sérieuse injection de réalisme. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Bruxelles, le débat sur la sécurité du vieux continent s'est donc accéléré depuis que Washington a repris langue avec Moscou pour mettre fin au conflit en Ukraine, de sorte que les Européens sont désormais confrontés d'un côté à l'urgence de sauver ce qui peut encore l'être avec les États-Unis, tout en cherchant de l'autre, Fabien, une alternative à l'ordre occidental tel qu'il était garanti depuis 80 ans maintenant par les Américains.
Oui, et c'est vraiment le double objectif du sommet européen de jeudi prochain qui est en train de se préparer activement ici à Bruxelles. D'abord, l'urgence, comment mettre fin à la guerre en Ukraine sans accepter une paix russe. L'idée d'une trêve partielle et provisoire évoquée par Emmanuel Macron est sur la table. Il n'y a pas eu d'accord conclu à ce stade, nuance ce matin le Premier ministre britannique Keir Starmer, mais on sent bien que les Européens se montrent très prudents sur l'idée d'une paix durable et inconditionnelle négociée sans eux entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Quant à l'idée de soldats européens de la paix envoyés en Ukraine après un éventuel cessez-le-feu, elle est toujours en débat. L'option est notamment poussée par les Britanniques, mais elle se heurte pour l'instant aux réticences ou aux hésitations de l'Allemagne, toujours en attente de gouvernement, de l'Espagne ou encore de la Pologne. L'effort global de défense européen, ce sera le deuxième gros morceau de ce sommet jeudi, où trouver les centaines de milliards d'euros que les Européens comptent dépenser pour s'armer sous la pression de Donald Trump qui menace de retirer les États-Unis de l'architecture de défense européenne. Sur cette question du financement, plusieurs options sont sur la table. Réorienter certains fonds structurels européens destinés habituellement aux aides régionales, faire de l'emprunt commun ou encore exclure les dépenses militaires des critères de stabilité budgétaire européen.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Alors on l'a compris, galvanisé en quelque sorte par l'esclandre de vendredi dernier dans le bureau ovale, les Européens entendent urgemment se réarmer pour se préparer au pire, l'urgence n'étant pas d'ailleurs d'augmenter spécialement leurs dépenses de défense déjà conséquentes plutôt que de miser sur une meilleure coopération. Et pour cela, le président Emmanuel Macron a notamment rappelé une carte importante entre ses mains, la dissuasion nucléaire. Or, étendre la doctrine française bien établie aux autres pays européens marquerait évidemment un changement de ton majeur face aux États-Unis et la Russie. Mais avec quels moyens? Frédéric Saïz a sollicité sur cette question Héloïse Fayet, elle est chercheuse à l'Institut français des relations internationales et vous allez l'entendre. Selon elle, le remplacement du parapluie nucléaire américain sur l'Europe par la dissuasion nucléaire française n'est aujourd'hui pas réaliste.
Aujourd'hui, on estime qu'on est toujours crédible pour dissuader
la Russie. Mais effectivement, il faut aussi entendre ce que nous disent nos alliés européens et savoir, eux, par quoi, en fait, ils seraient mieux rassurés. Est-ce qu'ils seraient rassurés par le déploiement d'armes nucléaires françaises à l'étranger à l'image de ce que font les Américains? Aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui est possible, là, sur le plan technique, tout simplement parce qu'il faut déjà les infrastructures pour accueillir ces armes nucléaires. Donc là, il faut les construire. Il y a des impératifs aussi de sûreté et de sécurité. On ne peut pas laisser des armes nucléaires comme ça dans un hangar comme un avion. Il faut réfléchir aussi à des processus en fait de contrôle de ces armes nucléaires. Et ça prendrait peut-être une dizaine d'années avant qu'on puisse faire la même chose. Donc en fait, c'est important vraiment de ne pas suivre le modèle américain de dissuasion élargie, mais plutôt d'inventer notre propre modèle. Et ça, ça nécessite en fait des dialogues entre la France et ses alliés. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a effectivement annoncé qu'il fallait que les Européens prennent en charge leur défense conventionnelle et donc, en fait, n'a pas inclus pour le moment la dissuasion élargie américaine dans ce cadre de redéfinition des relations transatlantiques. Donc, on peut espérer pour l'instant que les armes nucléaires américaines qui sont déployées en Europe le restent.
Héloïse Fayet, donc chercheuse à l'IFRI, elle répondait à Frédéric Seitz. Alors jusqu'où soutenir Kiev et surtout comment? Tandis que Paris et ses alliés cherchent donc la parade à un possible désengagement des États-Unis, deux débats sans vote sont prévus en France, le premier aujourd'hui à l'Assemblée et le second demain au Sénat. Or, deux profondes divisions subsistent, en l'occurrence sur l'attitude à adopter tant vis-à-vis de Washington que de Moscou, que sur le rôle même des Européens. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Thomas.
Là, sans doute, où l'exécutif rencontre l'opposition la plus dure, c'est avec le Rassemblement National qui n'entend pas partager la dissuasion nucléaire, on en parlait justement à l'instant, et qui ne veut pas davantage, Rosalie, d'une défense européenne.
L'altercation Trump-Zelensky à la Maison-Blanche, pas une humiliation, dit le député RN Jean-Philippe Tanguy. Pas anormal qu'il y ait des frictions en politique, juge aussi la patronne du groupe à l'Assemblée, Marine Le Pen, la triple candidate à la présidentielle, plus inquiète sur ce dossier de constater...
L'absence d'une voix forte et indépendante qui devrait être celle de la France. En réalité, on s'est fait un peu effacer de ces pourparlers. On a été, comme disent les jeunes, ghostés de ces négociations.
Ménageant les Russes et les Américains, le RN cible l'Union européenne, les pouvoirs qu'on lui a délégués et puis bien sûr Emmanuel Macron. Le président se dit prêt à ouvrir la discussion au niveau européen sur la dissuasion nucléaire. Le RN refuse.
Nous sommes totalement opposés, et cela relèverait d'une trahison nationale, à partager le bouton nucléaire avec des États européens.
Sur RTL, le chef du parti Jordan Bardella répète aussi son hostilité à une défense européenne.
Pas de défense européenne, il faut une défense nationale. Je crois que la sécurité de la France et la sécurité par définition de l'Europe ne se délèguent pas dans un monde de plus en plus troublé où nos alliés d'aujourd'hui ne seront peut-être pas nos alliés de demain.
Ces sujets ne souffrent pas d'amateurisme, tacle en retour Emmanuel Macron. Il le rappelle dans Le Figaro, ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella ne sont venus à la dernière réunion sur l'Ukraine à l'Elysée. L'un était à Washington pour découvrir qu'un ancien conseiller de Trump faisait des saluts nazis. Quant à Madame Le Pen, je comprends, ajoute encore le président, qu'elle était en vacances.
Merci Rosalie Lafarge.
Et c'est encore dans ce contexte particulier, celui d'un rapprochement spectaculaire entre les États-Unis et la Russie, que la première mission commerciale de la fusée Ariane 6, destinée à lancer un satellite militaire français, doit sceller la souveraineté retrouvée de l'Europe spatiale.
Oui, après plusieurs reports, la fusée lourde européenne doit décoller cet après-midi de Kourou et ce lancement est censé effectivement sécuriser l'accès autonome de l'Europe à l'espace, dont elle a été privée pendant plusieurs mois, dès lors qu'elle ne disposait plus des lanceurs russes Soyouz depuis l'invasion de l'Ukraine. Or, il se trouve qu'aujourd'hui aussi, l'omniprésent et richissime Elon Musk, devenu proche conseiller du président américain, a prévu de lancer sa méga fusée Starship, la plus grande jamais conçue, l'occasion donc de s'interroger comment la concurrence de plus en plus forte avec SpaceX a-t-elle transformé ou non le modèle spatial européen. Et pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Maxime Puteau, conseiller industrie au cabinet Novaspace. Bonjour monsieur.
Bonjour Thomas.
Rappelons qu'un premier lancement d'Ariane 6 a donc déjà eu lieu au mois de juillet dernier, que le vol opérationnel prévu cet après-midi sera le premier des 32 que compte désormais le carnet de commandes de la fusée européenne. Peut-être pour commencer, quelle importance donc revêt le vol d'aujourd'hui?
C'est un vol qui est important pour plusieurs raisons, à la fois parce que c'est la validation opérationnelle d'Ariane 6, comme vous l'avez dit, au-delà du vol de démonstration. C'est aussi un passager relativement précieux, puisque c'est le troisième satellite d'observation du ministère de la Défense français, CSO-3, composante spatiale optique, un satellite à très haute résolution qui viendra compléter une flotte de 2 satellites. Et puis c'est aussi, dans un contexte géopolitique tendu, le renforcement de capacités de renseignement pour la défense européenne.
Vous l'avez dit, la Ariane 6 donc doit transporter un satellite d'usage militaire et défensif, mais parmi les futurs clients du lanceur européen, on trouve par exemple Amazon. Dans la course de l'Europe, donc avec le géant américain SpaceX, quel rôle peut jouer Ariane 6?
Eh bien, en fait, Ariane 6, déjà, il faut rappeler que c'est la réponse de l'Europe en 2014 à la concurrence de SpaceX et de Falcon 9. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le monde a changé. Pour autant, la raison d'être d'Ariane 6 demeure, c'est-à-dire que l'Europe a besoin d'un lanceur de capacité lourde, c'est-à-dire d'une capacité d'emport de 20 tonnes en orbite basse, pour ses missions institutionnelles, mais aussi pour adresser le marché commercial, qui était l'équation économique d'Ariane Espace, donc répondre à ses propres besoins souverains et gagner des clients. Et avec le contrat Amazon pour la constellation Kuiper, donc de 3000 satellites, Ariane Espace a fait très fort, et ce qui reflète le signe de confiance du marché, même en dehors de l'Europe, envers ce lanceur européen.
Malgré les investissements américains dans le spatial qui sont aujourd'hui, on le rappelle, 5 fois supérieurs à ceux des Européens.
Oui, tout à fait. Les États-Unis sont largement en tête en termes d'investissement. Ils dépensent largement dans les aspects civils, mais dans les aspects de défense, tout azimut. L'Europe, elle, a fait le choix de prioriser quelques grands programmes de souveraineté, l'accès à l'espace, sans qui rien n'est possible, mais aussi des missions de souveraineté, d'observation de la Terre, de télécom, d'environnement. Et l'Europe cherche à rester dans la course. Et quand on regarde Amazon et la volonté de Jeff Bezos, on voit bien que les investissements de Jeff Bezos dans les lanceurs et sa constellation se font aussi en parallèle de la confiance à Ariane 6 et l'octroi de plusieurs dizaines de contrats de lancement.
S'agissant toujours de cette question du financement, donc de l'exploration spatiale, quelle est la position de la France en la matière ?
Alors, il faut distinguer vraiment l'exploration du vol habité. L'exploration à vocation scientifique, on en fait depuis longtemps, on le fait à travers l'Agence spatiale européenne. La question du vol habité, c'est-à-dire la place des astronautes, elle se fait aussi à travers l'Agence spatiale européenne, mais ici, on a décidé jusqu'à présent d'être sur le strapontin des Russes et des Américains, en volant à bord de leur capsule Soyuz ou capsule Dragon. Et face à ces nouveaux changements et bouleversements géopolitiques, se pose en effet la question de la place qu'on souhaite avoir en Europe. L'Amérique a décidé d'aller sur la Lune. Elle le fait à travers une capsule dont le module de propulsion est européen. Mais avec les évolutions techniques aussi en cours, il n'est pas impossible que les Américains décident d'accélérer et de passer directement à leur fameuse super lanceur Starship. Et dans ce cas-là, la place de l'Europe est un peu plus menacée si les Américains n'ont plus besoin de personne.
C'est bien noté. Merci Maxime Puteau, conseiller donc industrie au cabinet Nova Space, d'avoir répondu à notre invitation, et merci également à Louise Morfoise pour la préparation.
Israël a donc mis sa menace à exécution.
Oui, affamé la bande de Gaza en proie déjà à une catastrophe humanitaire. Hier, l'État hébreu a en effet décidé de bloquer jusqu'à nouvel ordre toute entrée de marchandises et d'approvisionnement dans l'enclave palestinienne. Une aide pourtant essentielle et même vitale. Et pourquoi ? Parce que le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui refuse de s'engager dans la deuxième étape de l'accord de cessez-le-feu, tel que fixé par le calendrier, exige pour l'heure de prolonger seulement la première phase, ce que refuse le Hamas. Une impasse qui compromet sérieusement la poursuite de la trêve, d'où cet appel du secrétaire général de l'ONU exhortant toutes les parties aux efforts nécessaires pour éviter un retour des hostilités. Alors sera-t-il entendu ? Une réunion ministérielle arabe est prévue aujourd'hui même au Caire, suivie d'un sommet arabe consacré à Gaza. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, signe que la situation reste explosive ce matin. Une attaque au couteau a fait un mort et plusieurs blessés à Haïfa, grande ville du nord d'Israël, soit le premier attentat mortel dans le pays depuis le début de la trêve.
Oui, vous l'avez dit, un mort, quatre blessés dans cette attaque au couteau à la gare centrale d'Haïfa. Haïfa, c'est la troisième ville du pays. Et le terroriste présumé a été abattu. Prudence, évidemment, parce que l'enquête est en cours. Mais selon la police, le suspect est druze et de nationalité israélienne. Le spectre, donc, pour l'État hébreu de l'ennemi de l'intérieur. C'est la deuxième attaque en moins de 10 jours dans la région, alors que le mois de Ramadan a commencé samedi et qu'il est considéré comme à haut risque par les autorités israéliennes.
Jusqu'à quel point, Thibault, le risque existe-t-il aujourd'hui donc d'une reprise des combats ?
Le risque est évident, d'autant plus que depuis samedi, les lignes ont bougé avec cette proposition israélo-américaine de plan alternatif qui prévoit donc une nouvelle période de trêve de 7 semaines, la libération au premier jour de la moitié des 59 derniers otages, puis de tous les autres à la fin de la période, refus catégorique du Hamas qui exige de continuer à négocier sur les bases de l'accord initial. Ça, c'est pour l'aspect diplomatique. Sur le volet militaire, l'État hébreu communique sur une stratégie qu'il a appelée le plan de l'enfer. Il s'agit d'une pression graduée sur le Hamas avec, vous l'avez dit, l'arrêt depuis dimanche des livraisons d'aide humanitaire. Et si l'organisation islamiste ne plie pas, le déplacement de force des habitants du nord de Gaza au sud et enfin la reprise des combats. Le plan de l'enfer, référence, vous l'avez saisi Thomas, aux déclarations de Donald Trump qui promettait l'enfer à Gaza si le Hamas ne libérait pas tous les otages.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem.
Midi et 45 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Il y a encore quelques semaines, à peine personne en Autriche n'aurait parié sur lui. Ce matin, le conservateur Christian Stocker, 64 ans, est devenu chancelier à la tête d'une coalition tripartite qui permet surtout au pays de rester dans le giron pro-européen après une occasion historique manquée par l'extrême droite de décrocher les rênes du pouvoir. Arriéré de salaire un peu tardif ou véritable escroquerie près de 3 ans après leur acquittement en première instance. Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, reviennent en appel aujourd'hui devant la justice suisse. Les deux hommes qui comptaient autrefois parmi les plus hautes personnalités du football mondial sont soupçonnés de paiements suspects à hauteur de plus de 2 millions d'euros.
Ils veulent en finir avec la boîte noire de Bercy.
Oui, les ministres de l'économie, Éric Lombard, et des comptes publics, Amélie Montchalin, ont dévoilé ce matin les contours d'une nouvelle conversation transparente qu'ils veulent engager avec les Français pour à la fois leur faire comprendre, mais aussi accepter les décisions sur lesquelles ils commencent déjà à travailler pour préparer le budget 2026. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors on se dit que l'un et l'autre doivent forcément déjà anticiper des choix budgétaires difficiles à faire avaler aux Français, mais aussi aux parlementaires. Quoi qu'il en soit, les deux ministres, Camille, proposent donc une nouvelle manière de piloter et d'expliquer la gestion de nos finances publiques.
Oui, parce que selon Amélie de Montchalin, il y a un double impératif budgétaire, bien sûr, mais aussi démocratique, celui de refaire nation, de retrouver confiance ensemble, dit la ministre, en notre capacité de faire face aux défis budgétaires, de reprendre le contrôle sur nos comptes publics. Mieux donner donc aux Françaises et aux Français les clés pour comprendre les décisions qui sont prises en leur nom, parce qu'à la fin, ce sont bien elles et eux qui payent les impôts. Sur un plan plus technique, Éric Lombard compte installer dès avril un comité d'alerte sur l'état des finances publiques qui mettra autour d'une même table au moins 3 fois par an des représentants de l'État, mais aussi du Haut Conseil des finances publiques, des parlementaires et des élus des collectivités locales pour avoir une vision d'ensemble des tendances en ce qui concerne les dépenses en cours, mais aussi voir si les recettes attendues entrent bien dans les caisses. Le gouvernement va aussi créer un cercle des prévisionnistes avec cette fois des agents de Bercy, des économistes, la Cour des comptes, France Stratégie, des experts institutionnels et académiques donc, qui devront affiner les prévisions macroéconomiques autour desquelles le budget sera ensuite construit. Il y a là clairement l'idée de ne pas refaire les erreurs du passé, ces dérapages incontrôlés des finances publiques que l'on a vu ces dernières années sous Bruno Le Maire. Éric Lombard enfin prévient, avec les tensions internationales autour de la présidence Trump, l'Europe va devoir trouver rapidement des marges budgétaires pour augmenter son effort en matière de défense. Et la première piste évoquée pour notre pays par le ministre, c'est celle d'augmenter d'augmenter le taux d'emploi des Françaises et des Français.
Merci Camille Magnard. La France prépare une liste de plusieurs centaines de ressortissants algériens en profil dangereux qu'elle souhaite renvoyer dans leur pays, ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, en pleine crise donc avec Alger, des individus qui présentent un danger parce qu'ils ont commis des troubles à l'ordre public ou parce qu'ils figurent dans notre fichier des radicalisés pour terrorisme, a précisé le ministre de l'Intérieur. Première étape de la transformation du périphérique parisien, cet espace le plus pollué de la capitale en un boulevard urbain, une voie réservée aux mobilités partagées, est entrée en vigueur ce matin. En clair, la voie de circulation la plus à gauche sera désormais réservée aux heures de pointe, aux véhicules qui transportent au moins deux passagers hors poids lourd, ainsi qu'aux transports collectifs et aux véhicules de secours. Cette expérimentation organisée sans date de fin concernera également certains tronçons de l'autoroute A1 au nord de Paris et de la 13 à l'ouest. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec du soleil sur la majeure partie du territoire malgré la présence encore de quelques nuages bas récalcitrants le long de la Manche ainsi que du bassin aquitain au Languedoc-Roussillon. Quant aux températures, elles seront comprises entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.